France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Aujourd'hui a débuté la fête de la science avec des rassemblements un peu partout en France. Ça va durer 10 jours pour que les chercheurs puissent échanger avec les citoyens et pourquoi pas même susciter des vocations avec un thème cette année, celui des intelligences. La nôtre comme celle dite artificielle, alors que l'on a longtemps cru que l'intelligence était le propre de l'animal que nous sommes. Alors nous verrons ce soir quelles sont donc les différentes formes d'intelligence aujourd'hui, notamment cette IA de plus en plus intrusive dans notre quotidien et dont on ne sait plus très bien si elle est encore une alliée ou déjà une rivale. L'intelligence artificielle pourrait-elle un jour supplanter celle de l'espèce humaine? On va poser la question ce soir à nos invités. On évoquera aussi l'état de la recherche en France et aux États-Unis avec un président Trump qui a une conception toute personnel de la chose scientifique. On attend donc vos témoignages, vos questions, le standard est ouvert, ou bien via l'appli Radio France, le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne 01 45 24 7000.
Avec un premier appel de Bayonne, c'est Lothaire qui est en ligne à Bayonne. Bonsoir Lothaire.
Bonsoir. Donc moi ce que je voulais dire c'est que tout ce que vous venez de dire, je ne suis pas du tout d'accord avec ça.
Très bien, c'est pour ça que vous êtes là.
L'intelligence artificielle n'est pas une intelligence. C'est pas une intelligence, c'est une super documentaliste qui est capable de regarder dans tous les fichiers qui ont été créés pour vous répondre, mais c'est pas une intelligence et je trouve ça inquiétant. Est-ce que vous ne trouvez pas ça inquiétant d'appeler intelligence une chose qui n'en est pas une?
Eh bien, merci de ce témoignage et de cette question. Je vais la soumettre à nos invités ce soir pour vous répondre. Il y a Françoise Combes, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris Sciences et Lettres, professeure au Collège de France. Vous êtes la présidente de l'Académie des Sciences. Invité également Thomas Cavaillé-Foll, rédacteur en chef de Science et Vie. Le magazine est d'ailleurs partenaire de cette fête de la science. Et puis nous sommes en ligne avec Laurence De Villers, professeure et chercheuse spécialiste de l'intelligence artificielle et des interactions entre l'homme et la machine. Laurence De Villers, je sais que vous êtes dans le train, alors je ne sais pas comment est la liaison, mais on va se lancer quand même. Notre auditeur qui dit qu'après tout, l'IA ne serait pas une intelligence. Quel est votre commentaire là-dessus?
Je crois qu'il a raison, effectivement, de le pointer fortement. L'IA, c'est de l'imitation à partir de données des humains, et donc c'est en rien une intelligence. Par contre, elle parle d'une façon incroyablement proche, avec un langage proche de celui des humains, et c'est assez déstabilisant. Donc des gens se confient à ces IA, on voit des applications assez délétères, et je trouve que c'est important de dire et de répéter que ce ne sont pas des intelligences telles que les intelligences humaines.
Thomas Cavaillé-Foll, vulgariser la science, hein, ça fait partie de votre concept au magazine Science et Vie. Déjà en 1954, je crois, il y avait des prix Nobel d'économie qui disaient que dans 20 ans, en 1978, donc l'intelligence sera capable de remplacer tout ce que fait l'homme. Comment est-ce que vous regardez aujourd'hui l'arrivée de cette, on va l'appeler intelligence artificielle, puisque c'est son nom génératif, même attribué aujourd'hui au grand public?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec cet auditeur aussi. On adore anthropomorphiser en fait les choses, donc c'est pour ça qu'on appelle ça intelligence, mais ça n'en est pas encore. L'arrivée de l'intelligence artificielle, moi pour l'instant je la regarde avec tout le recul dont je suis possible. Je l'utilise assez peu en fait, l'IA générative en elle-même, celle que tout le monde utilise, ChatGPT ou le chat justement en France. En fait, pour l'instant, je trouve que c'est assez limité. Je suis plus intéressé par les intelligences artificielles très spécialisées, ça, qui vont faire du codage, par exemple, ou de la recherche scientifique, notamment dans l'imagerie médicale. Là, je trouve ça a plus d'avenir, pour moi, en tout cas, qu'un simple agent conversationnel. Bon. Je trouve...
Pour l'instant, on aurait tort de faire de l'anthropomorphisme sur cette intelligence artificielle. Ça. Françoise Combes, je rappelle que vous êtes la présidente de l'Académie des sciences. D'ailleurs, comment l'Académie des sciences est en train de digérer cette arrivée de l'intelligence artificielle générative?
Alors moi, je voudrais dire aussi que ce n'est pas une intelligence, je suis d'accord avec l'auditeur, puisque c'est plutôt un outil très très important. Et je pense que tous les scientifiques s'en servent aujourd'hui. Enfin, je n'ai pas connu de scientifiques qui s'en servent pas. Et même les LLM, c'est-à-dire les Large Language Model, on dirait que c'est que du langage. Pas du tout, on s'en sert pour trouver des choses en cosmologie. On a énormément de données. Alors, il faut dire que ce n'est pas comme au début du XXe siècle où on avait 100 galaxies, 200 galaxies. Maintenant, on a des millions et des milliards de galaxies. Donc, il faut absolument la machine pour reconnaître ce que c'est. D'abord, pour trouver où elles sont, pour les classifier et pour nous aider à analyser ces données. Donc, tout le monde, que ce soit dans le génome, que ce soit en biologie, se sert de cet outil. Et donc, c'est quelque chose qui est fondamental. Même les LLM, donc, on s'en sert. Ouais. Donc, à l'Académie, on s'en sert. On a beaucoup d'académiciens qui s'en servent dans tous les domaines, que ce soit l'informatique, que ce soit la biologie, que ce soit même la mécanique et l'astrophysique et la géophysique. On s'en sert énormément.
Laurence de Villers, est-ce que l'intelligence artificielle est encore une alliée pour l'humain ou est-ce qu'elle est déjà une rivale? On le voit notamment dans l'emploi, par exemple.
Alors écoutez, elle devrait être une alliée, parce que je suis complètement en accord. Cette machine LLM, en tout cas les IA génératives, arrive à finalement reproduire des fonctions complexes qu'on ne savait pas gérer avec d'autres outils. Elles vont permettre de trouver des nouveaux médicaments, de travailler aussi sur tout cet environnement qui pose problème, l'écologie. Est-ce qu'on aura, avec ces données qui nous prend un peu partout, des optimisations qu'on ne voit pas encore? Donc je parie beaucoup pour l'IA, mais pas à n'importe quel prix. Et aujourd'hui, on est en train de galvauder tout ça avec des agents qui ne sont absolument pas dédiés à l'interaction. Et comme je disais tout à l'heure, c'est tout sauf un ami ou un assistant. Et dans le travail, c'est terrible. Parce que les tests montrent, il y a un des derniers tests du MIT qui montre que finalement, beaucoup de personnes qui utilisent ChatGPT ne font plus du tout d'efforts. On peut dire qu'à ce moment-là, ils ne mémorisent rien. Et c'est terrible parce qu'ils n'arriveront plus finalement à produire de la science ou de produire tout simplement pour les élèves une rédaction ou un devoir sans cet outil, sans l'assistant de cet outil. On est en train de créer des dépendances extrêmement fortes et pour l'éducation, je suis vraiment très très choquée que l'on parle de l'IA générative à l'école. Il faut faire attention à ce qu'on est en train de faire. En tant que scientifique, on a des premiers tests qui montrent les aspects délétères. On ne parle pas à ces machines comme si on parlait à des humains, il faut arrêter ce délire.
Thomas Cavaillé-Foll, cette intelligence artificielle de plus en plus intrusive dans nos démarches, est-ce qu'elle peut finir par nous rendre paresseux, intellectuellement ?
C'est la grande peur, mais je trouve ça... j'ai l'impression que c'est ce qui arrive. En tout cas, c'est sur quoi les entreprises misent aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières pubs sur l'IA, mais par exemple, d'une grande chaîne de téléphonie, c'est une dame qui est quand même à la laverie et qui demande à l'IA comment elle peut laver son pull. C'est écrit sur l'étiquette, quoi. Parce que là, vraiment, on n'est pas dans le summum de la paresse. Et je trouve que l'IA générative, même tous les modèles dont on parle, ont des capacités extraordinaires. Et on risque de les utiliser pour être paresseux. Je trouve ça très dommage.
Cet éloge de la paresse, malheureusement, elle est subie. Elle serait de plus en plus subie. Vous le vérifiez aussi à l'Académie des sciences, François Scombes ?
Non, en fait, on n'en est pas là. Je pense que les gens ne sont pas encore paresseux. Ils n'ont pas été formés comme ça. Donc nous, on est plutôt dans des seniors, dans les gens qui sont au milieu de leur carrière ou après. Et donc peut-être qu'on peut avoir peur pour les jeunes qui sont formés de cette façon. Mais nous, au contraire, on trouve que ça nous multiplie notre puissance, en fait, de calcul, de productivité. Par exemple, on fait un code, mais le code, il peut être banal. On peut mettre une heure à écrire un code en Python, et puis tout d'un coup, il y a des erreurs. Pour trouver les erreurs, c'est un peu... La machine trouve les erreurs. Elle peut coder. On nous dit faire un code qui fait ceci, cela. La machine le fait en 3 secondes. Et donc, ça multiplie notre capacité de travail. Au lieu de passer une journée à analyser quelque chose, on passe même pas 20 minutes. Et donc, c'est une multiplication de notre productivité énorme. Donc, je pense que là...
C'est ce que disait Laurence. En fait, tout l'enjeu est sur l'éducation.
Mais on va poser la question à Laurence de Villers. Je rappelle que vous êtes professeure et chercheuse spécialiste de l'intelligence artificielle et des interactions entre l'homme et la machine. Laurence de Villers, comment est-ce qu'on peut apprendre aux enfants à développer un esprit critique par rapport à cette intelligence artificielle qui va devenir leur compagnon de route ?
Oui, alors il faut arrêter avec le terme de compagnon, vous avez raison en tout cas, qui va être, très présent.
Oui.
La personnification de ces machines est absolument inadmissible quelque part, ça n'a rien d'humain. Cette machine en plus, elle ne comprend pas le langage, il faut bien comprendre ça, ce sont des algorithmes statistiques qui produisent en fait du langage de très bonne qualité, mais sans comprendre du tout ce qui est dit, ni comprendre ce que vous ce qu'elle produit ni ce que vous dites. Et donc, moi, j'ai signé avec Joshua Bengio et beaucoup d'autres acteurs. Je pense que parmi vos interlocuteurs, effectivement, il y a des gens qui ont signé cette pétition aussi à l'ONU en disant « il faut des red lines ». On est pour l'éducation et pour un grand nombre de sujets quand même assez vulnérables vis-à-vis de cette machine. Les enfants qui vont apprendre avec ces outils dans les mains sans avoir été formés, c'est absolument terrible. Comment faire pour les former? Je pense qu'il faut parler des concepts avant de faire du code. Quand j'entends effectivement que le code avec la machine, c'est très bien pour des gens qui ont du background, qui ont déjà de l'expérience et qui sont capables de déceler là où la machine se trompe. Mais les nouveaux ingénieurs qui codent l'école, pour certains, vont utiliser ces machines à tort et ne sont pas capables de créer et de débugger les programmes qui sont produits. Ils sont très complexes. Et donc, je pense que là, il faut faire attention à ce qu'on est en train de dire sur le code. J'espère que ce ne sont pas les machines demain qui vont faire de la créativité, sinon on va amoindrir l'intelligence collective. Mmh.
01 45 24 7000, le standard de France Inter. Guy nous appelle de Toulouse. Bonsoir Guy.
Oui, bonsoir. Vous venez beaucoup de parler d'IA générative. Il y a un philosophe sur France Inter qui avait parlé d'IA générative en disant que c'était de l'érudition artificielle. Mais il n'y a pas que en IA, il n'y a pas que tout ce qui est l'IA génératif. Il y a aussi d'autres formes d'intelligence artificielle. Tout ce qui est la résolution des jeux, si je m'abuse, c'est sur des algorithmes dits de Monte Carlo, donc les jeux d'échecs ou ce genre de choses-là. Donc c'est une forme boostée au deep learning, donc c'est une forme d'intelligence artificielle. J'en ai découvert aussi qui travaillait sur les équations de physique et qui ont trouvé des singularités, par exemple, dans les équations de Navier-Stokes. Alors pour ceux qui connaissent pas Navier-Stokes, c'est toutes les équations qui permettent de travailler sur la mécanique des fluides, donc les prévisions météo et faire voler les avions. Et donc ce que j'aimerais, c'est que vous décriviez quels sont ces différents types d'intelligence artificielle et comment elles fonctionnent. Ça permet d'ouvrir l'espace et de sortir de cette partie IA générative qui est assez impressionnant, et je suis impressionné par ce qu'ils sont capables de faire les statistiques.
Laurence de Villers, merci de ce témoignage, Guy, à Toulouse. Laurence de Villers, je m'y perds un peu, moi, dans ces équations Navier-Stokes, dans ces algorithmes de Monte Carlo et d'autres formes d'algorithmes, on connaît aujourd'hui précisément les différents types, différentes formes d'intelligence artificielle?
Oui, en fait, il y a différents algorithmes d'apprentissage par la machine. C'est de ça dont on parle. Il y en a des plus classiques qui maniaient du langage, du symbole. Non, c'est pas forcément que le langage, mais il y a des algorithmes, par exemple, donc celle qu'on utilise, c'est l'IA générative qui produit à partir d'un code des données, mais on a l'IA prédictive qui sert, par exemple, à détecter les cancers précoces dans les radios, qui sont extrêmement utiles. Ça va détecter des signaux faibles dans un milliard d'images que l'œil du médecin ne peut pas détecter. Donc en ça, c'est une prouesse énorme et que ça peut être une aide pour les médecins, et on va le retrouver dans beaucoup de domaines. Donc ça, c'est l'IA prédictive. Et on a aussi d'autres algorithmes qui sont plus classiques de renforcement par apprentissage et tout. Ces différents outils, par exemple dans ChatGPT, vous avez les trois outils typiques d'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire un auto-apprentissage dans le cœur de l'IA générative, et puis derrière, de l'apprentissage supervisé par les humains, et puis aussi par renforcement avec des règles de récompense. On pourrait expliquer ça prendrait du temps. Disons que l'IA classique était plutôt symbolique, manipulait des objets qu'on comprenait, nous, des symboles, et l'IA connexionniste par réseau de neurones, c'est une IA qui distribue la connaissance à travers son réseau et qui peut apprendre des formes extrêmement complexes, mais avec moins de capacité d'expliquer comment elle crée la solution.
Et puis, il y a aussi cette intelligence qui fournit parfois des résultats dits biaisés par des préjugés humains qui faussent donc ces algorithmes. Thomas Cavaillé-Foll, est-ce que ces biais finiront par disparaître ?
Le problème, c'est que donc ces IA sont entraînées sur des jeux de données qui sont de base biaisés, puisqu'ils sont faits par des humains qui sont remplis de biais, généralement. Je crois que, alors ça faudrait quelqu'un de plus expérimenté que moi pour répondre, mais à mon avis, pour enlever ces biais, il va falloir un modérateur. Et toute la question, c'est donc de comment le modérateur peut lui-même être conscient de ses propres biais. Est-ce je trouve qu'on se mord la queue, en fait.
Ça veut dire, et je me retourne encore vers vous, Laurence de Villers, que tant qu'il y aura des biais, il faudra toujours se méfier un peu de cette intelligence artificielle ?
Partie des fausses bonnes idées, parce qu'il y a des biais partout. Il y en aura toujours. Ce qu'on essaie de faire, c'est de limiter les biais discriminants ou les différences entre hommes et femmes ou des choses qui sont grossièrement là. Mais sinon, il y aura toujours des biais. Il y a une multitude d'informations qu'on ne pourra pas prendre en compte. Je pense qu'il faut réaliser qu'il va falloir utiliser ces objets avec un certain biais. Le biais humain, et comme vous l'avez dit, est tout à fait évident. Les humains ont des biais dans tous les sens. Il faut être intelligent et trouver, en fait, dans l'incertitude qui est produite par la machine, ce qui est intéressant à prendre ou pas. Donc quand on va développer ces outils pour du recrutement, évidemment, faut faire attention à ce que ça soit pas biaisé pour l'âge, le sexe, etc. Mais suivant les applications à plus ou moins risque de discrimination, il faut faire très attention. Mais sinon, il y aura toujours des biais. Donc faut apprendre à vivre avec.
On a consacré, on va peut-être le faire encore un petit peu, une bonne place à l'intelligence artificielle. Je rappelle que le téléphone sonne ce soir à l'occasion de la fête de la science. C'est aussi pour parler des chercheurs et de la recherche en France. Et je me retourne vers vous, Françoise Combes. En 2022, ce sont les derniers chiffres que j'ai trouvés, la France se situait au 7e rang mondial en termes de puissance de recherche avec 334 000 chercheurs derrière la Chine, derrière les États-Unis, le Japon, en Europe, juste derrière l'Allemagne, la France. Que signifie à vos yeux cette 7e place mondiale pour la France ?
En fait, 7e, on est descendu depuis. En fait, hein. On ne fait que descendre. En fait, c'est assez affolant parce que le nombre de publications est en train de baisser. Je crois qu'on est passé au 13e maintenant, au 13e rang. La Chine augmente énormément. Il faut dire que la Chine a énormément de puissance scientifique et elle a développé. On sait que les politiques sont très scientifiques en Chine et mettent la science à une grande priorité. Donc, il y a énormément de crédits développée pour la science, et ce qui fait que elle a vraiment le nombre de publications en Chine est bien supérieur à celle des États-Unis.
En proportion, par rapport au nombre d'habitants
et la qualité. Et la qualité aussi.
Je disais que depuis 20 ans, l'État n'a cessé de se désengager aussi de l'enseignement supérieur.
Exactement, le budget. Alors en 2020, il y avait quand même un plan, le LPR, qui était fait pour... On avait remarqué en effet que la France décrochait un peu. Il y avait des plans de faire 25 milliards de plus en 10 ans. Ça veut dire presque 10% de plus chaque année. Et puis finalement, les promesses n'ont pas été tenues. Alors évidemment, il y a des contraintes budgétaires, on le sait, mais il y a eu des coupes. Et en 2025, il y a eu encore 600 millions de coupes au début de l'année, ensuite moins 900 de coupes encore au milieu de l'année. Et finalement, on décroche encore. Ce qui fait que, alors qu'on avait comme but d'avoir 3% du PIB pour la recherche en France, on en est encore qu'à 2%, 2,2, alors que l'Allemagne est bien au-dessus. Tous les pays européens, tous les pays européens ont bien monté en tant que pourcentage de PIB donné à la recherche. Et puis la recherche publique, fondamentale, ce n'est que 0,8% en France, contrairement à tous les autres pays qui ont continué à augmenter. Donc là, je pense qu'on a un déficit de budget et qui explique aussi en partie, en grande partie, le décrochage de la France. Alors, entre autres, l'Europe elle-même décroche par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis.
Une question aussi sur la place des femmes dans la science. Est-ce que le nombre de femmes progresse un peu au sein de la recherche française ?
Alors, le pourcentage de femmes est à peu près 30-35%. Et ça varie en fait un peu avec les disciplines, bien sûr. On a beaucoup moins en maths, informatique, et puis beaucoup plus en biologie, sciences du vivant, bien sûr. Mais ce 35% est à peu près constant et... Il tendrait peut-être même parfois à diminuer un tout petit peu. Alors tout ça, pourquoi on a des multifacteurs ? C'est que pour trouver un poste permanent en France après la thèse, autrefois, il y a 20-30 ans, il suffisait d'attendre 2 ans de post-doc. Maintenant, il faut en moyenne attendre 6 ans de post-doc pour avoir un poste permanent. Et donc ça décourage les femmes qui préféreraient s'installer, fonder une famille, etc. Donc là, on essaie de faire des efforts pour maintenir ce taux à 30-35%. Mais pour l'instant, il n'augmente pas.
Encore quelques questions sur l'intelligence artificielle. On y retourne. On a parlé des résultats qui étaient biaisés. On nous demande maintenant si le rôle de l'intelligence artificielle dans l'urgence climatique. Laurence de Villers, c'est un réflexe à France Inter. Et ce n'est pas la première fois que ça vous arrive, je crois. Face à l'urgence climatique, les gouvernements se tournent vers l'intelligence artificielle, notamment pour modéliser les risques. Qu'est-ce que cet outil va apporter précisément dans cette lutte contre le réchauffement climatique ?
Oui, alors c'est un outil, c'est paradoxal parce que c'est un outil qui coûte très cher, donc il faut mettre ça dans l'équation. Mais par contre, comme il est capable de traiter des grands corpus de données de toutes sortes, il peut optimiser. Il peut faire des optimisations. Par exemple, Mistral AI a fait des accords avec Engie, je crois, pour optimiser des dépenses d'énergie en électricité. Je crois qu'il y a les mêmes idées pour l'eau. Et je pense qu'on peut faire beaucoup, si vous voulez, pour optimiser les dépenses d'énergie autour de nous, ce qui serait un gain aussi pour l'écologie. On a eu cette grande chance d'avoir des outils très pointus et des grands chercheurs en France. Il faut en profiter pour avoir des plans d'action sur ces sujets qui soient réellement soutenus. Je sais que le CNRS est impliqué énormément, en fait, sur la préservation de la planète et l'écologie.
Et à propos de consommation d'énergie, l'intelligence artificielle est d'ores et déjà capable de concevoir des procédés industriels à plus faible empreinte carbone. C'est déjà sur les rails, ça, Laurence de Villers?
Oui, on fait des outils qui sont de moins en moins coûteux par des tas d'optimisations. Il y en aura encore plus si on passe sur le quantique. On va améliorer de toute façon. Mais je parlais moi des grandes déflagrations climatiques, par exemple. On peut trouver des raisons, on peut mieux expliquer des phénomènes par l'ampleur des données qu'on peut gérer. Donc cette équation en fait de coûts et de dépenses qui est profitable peut-être pour plus longtemps. Long terme doit être compris aussi dans une temporalité qui n'est pas juste du court terme.
Parce que là encore, ça va être perçu différemment selon les régions du monde. Il reste un déséquilibre selon les régions. Elles seront capables ou non de financer de tels projets bas carbone. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait donc amplifier ces inégalités régionales?
Ah, ça c'est un risque effectivement, mais c'est là où il faut être assez holistique et comprendre que on a besoin de raisonner sur l'IA, comme pour le travail, hein, et sur le fait que certains vont pouvoir peut-être plus avoir leur emploi parce qu'ils vont être remplacés par des IA. On a besoin d'avoir en fait des raisonnements holistiques, c'est-à-dire en grandeur sur toutes les dépendances variables de différents niveaux. Et je pense que l'écologie, on peut pas la traiter toute seule, il faut la voir dans l'ensemble en fait des équilibres.
C'est la fête de la science à partir de ce soir et pendant 10 jours. On en parle ce soir sur France Inter jusqu'à
20h. France Inter, le téléphone sonne.
Avec Guillaume qui nous appelle de Nantes. Bonsoir Guillaume.
Oui, bonsoir à tous. Oui, je vous appelais juste par rapport donc au sujet et puis notamment à l'introduction sur l'IA. On dit souvent parfois que, peut-être à tort, que la science c'est le doute. Et puis ce qui me gêne un petit peu parfois dans l'IA, c'est que le doute n'est pas souvent présenté. Donc voilà, je voulais savoir ce que vos invités en pensaient. Et puis bonne fête de la science à tous.
c'est très gentil, Thomas Cavaillé-Foll, rédacteur en chef à Science et Vie. Vous consultez, je crois, pour chacun des magazines, une centaine de scientifiques. Vous avez le doute cartésien ancré dans votre rédaction.
Oui, tout à fait. Donc c'est ce qui nous anime. Et même quand on parle à un scientifique, chacun met le doute sur ses propres recherches. Et quand on parle à une IA, généralement, elle affirme très fort, en tout cas une IA générative. Elle affirme très fort ses réponses. Et quand on lui dit « mais non, là tu t'es planté », elle dit « ah oui, c'est vrai, je me suis planté ». C'est assez dingue. Donc c'est une très bonne remarque de l'auditeur, je trouve. Ce serait pas mal que de la faire douter un peu.
Quelques questions également sur cette science malmenée, notamment par les États-Unis. Je me retourne vers vous, Françoise Combes. Vous êtes la présidente de l'Académie des sciences. Donald Trump devant l'ONU, il y a quelques jours encore, a traité d'idiots les scientifiques qui ont conceptualisé le réchauffement climatique. Est-ce que ce dénigrement ne cesse de progresser à vos yeux à travers la planète ?
Ben pas à travers la planète, c'est surtout l'affaire du ministère, enfin de Trump et de son administration. En fait, il était déjà climato-sceptique depuis longtemps, depuis son premier mandat. Donc ce qui est quand même affolant de voir depuis janvier 2025, hein, c'est vraiment l'anti-science qui est arrivée au pouvoir, en fait. Ne serait-ce qu'on a un Kennedy qui est anti-vaccin à la ministre de la Santé.
Le ministre de la Santé américain.
Franchement, en fait, on a aussi une combat contre les scientifiques. Ils ont limogé au moins 100 000 ou 200 000 scientifiques. On a par exemple un système qui était en train de regarder en fait les données atomiques qui servaient un peu à tout le monde, les géophysiciens, les astrophysiciens, qui marchaient depuis 120 ans et à quel tout le monde se référait dans le monde entier. Ils l'ont démantelé. On se demande pourquoi, mais ils ont tous été virés. Et donc, on se demande, enfin, on a évidemment des bases de données dans le monde entier, mais on ne fera plus de recherche là-dessus. Et donc, tout est à l'avenant. Alors, évidemment, le climat, on a besoin de toutes ces données, puisque le climat, ça ne s'arrête pas dans un pays, les frontières n'existent pas. Donc, on a besoin des données de température, de pression, de vent dans tout le monde. Et là, il nous manquera un grand point.
Des données vont disparaître.
Vont disparaître, et c'est vraiment dramatique. En fait, les États-Unis étaient moteurs dans la science mondiale, et tout d'un coup, ils se donnent une balle dans le pied, en quelque sorte, et tout le monde entier va en pâtir.
Et quand Donald Trump a coupé les crédits de la science aux États-Unis, Emmanuel Macron avait largement incité les laboratoires français et européens à accueillir les chercheurs américains. On se rappelle le slogan « Choose Europe for Science ». 6 mois après, dans les faits, ça a donné quoi ?
On a Choose France, oui, je suis dans le comité qui est en train de voir les dossiers des Américains qui proposent de venir.
Mais il y en a beaucoup, on a les moyens de payer des scientifiques américains ?
Oui, parce qu'on a débloqué 100 millions d'euros pour cette opération. L'Europe a débloqué 500 millions d'euros. Alors c'est peu, mais enfin quand même, il y a certains Américains qui ont été complètement virés. Tous ne vont pas vouloir venir, évidemment, mais il y en a beaucoup qui sont virés et qui viennent. En fait, on a quelque chose comme une centaine de dossiers. Il y en a des villes comme Marseille qui ont été les premiers à débloquer des crédits pour cela. Et quand on regarde les dossiers, il y en a qui sont excellents et qui pourraient peut-être s'implanter et avoir un effet moteur pour moins quelques années en France.
Je relève le chiffre que vous avez donné. En 6 mois, il y a une centaine de chercheurs américains qui postulent en France. C'est beaucoup.
On en attend d'autres parce qu'en fait, ils arrivent au fil de l'eau. Donc ce n'est pas fini.
Et est-ce que la France est la première destination ou est-ce que d'autres préfèrent aller en Allemagne ?
Il y en a beaucoup qui vont en Europe, hein, ça c'est clair. Et les Européens ont peut-être plus de crédit que nous pour les accueillir.
Et les Européens, vous voulez dire ?
Alors il y a des Européens, mais il y a aussi des Anglais. Et je pense qu'en effet, on a vu aussi les montées aller en Angleterre, au Royaume-Uni, parce qu'évidemment, le langage est le même, les mentalités sont les mêmes. Ils ont eu 50% de plus d'étudiants et postdoctorants qui sont réfugiés en Angleterre.
Encore quelques questions, on y revient à cette intelligence artificielle. Ce soir, les auditeurs semblent très, très intéressés par l'IA. Ce qui caractérise d'ailleurs l'être humain, c'est d'être capable de transmettre des idées complexes sur ce qui existe, mais aussi sur ce qui n'existe pas. Or, l'intelligence artificielle nous montre, et elle donne l'impression de reproduire cette faculté de réfléchir sur ce qui n'existe pas. Laurence De Villers, est-ce que cela va redéfinir ce que l'on raconte depuis des décennies, des siècles, sur ce qui caractérise l'être humain ?
Non, je ne crois pas. Sur cette histoire d'inconscient, si vous êtes en train de parler, par exemple, pour le langage, trouver les non-mots, les silences, exploiter en fait tout ce qui est autour du langage que notre inconscient va booster les émotions de la même façon. Tout ce non-verbal autour du langage, parce que sinon on parle à ces objets. Hein. Il y a Mochi, Speech to Speech, il y a ChatGPT-4o, donc ça ouvre encore plus de marché, hein, le fait de parler directement aux machines. Et je pense qu'elles ne sont pas du tout capables, en tout cas, d'interpréter ce que nous faisons comme lapsus ou comme métaphore. Elles font pour l'instant des calculs algorithmiques dans un énorme champ de données, de paramètres à l'intérieur des couches cachées, mais elles vont trouver des analogies au mieux, c'est-à-dire en fait des choses proches dans l'espace de calcul, mais absolument pas des sauts métaphoriques où là, l'humain a beaucoup d'avance. Enfin.
Mais en fait, vous êtes en train de nous dire que la machine ne pourra jamais avoir notre émotion, on est certain de ça ?
Oui, on est certain, avec des LLM, en tout cas avec cette technologie qui aujourd'hui peut rendre des services, hein, on est certain qu'on ne sera pas beaucoup plus proche de l'humain. On va avoir d'autres outils. On voit arriver des recherches maintenant pour l'apprentissage en contexte. Par exemple, les lunettes Meta permettent de collecter des données en contexte. On voit les gens autour de nous et on peut interagir avec eux et la machine apprend à partir de ça. Donc, l'apprentissage par une machine, c'est quelque chose d'assez fabuleux que les humains ont mis en œuvre, mais elle peut être terrible si on l'utilise partout avec des agents autonomes qui prennent des décisions. Donc moi, j'ai signé cette tribune avec Joshua Bengio et beaucoup d'autres, des prix Nobel, etc., pour dire attention, il faut mettre les lignes rouges. Là, on va vers l'agent IA capable de faire des choses extrêmement délétères. Mais en aucune manière, c'est de la super intelligence humaine. Ça, c'est un vrai mensonge que les grands géants du numérique nous servent en disant que demain, ça sera meilleur que nos enfants et que nous-mêmes. C'est tout à fait différent, hein, ce genre d'algorithme. Mais par contre, derrière ce langage, il y a l'idée, finalement, qu'ils ne sont pas responsables, puisque la machine les dépasse, et que peut-être il faudrait leur donner des personnalités juridiques. Vous voyez, ça va très loin.
Apprendre aux enfants, notamment, à maîtriser, certainement pas mépriser, mais maîtriser l'intelligence artificielle, pardon pour ce lapsus qui tombe très mal, à Science et Vie, comment est-ce que vous en parlez à cette jeunesse qui vous lit ?
Alors, ça faudrait demander à la rédactrice en chef de Junior, de Science et Vie Junior, parce que moi j'avoue que ça, je parle aux adultes. Nous, on est dans plutôt l'éducation, donc savoir comment connaître les biais justement des IA, savoir s'en servir, corriger en fait des travaux déjà effectués. Le mieux, c'est de faire un exposé. Le faire soi-même, par exemple, un travail, et puis ensuite de le proposer à l'IA, de demander à l'IA comment on peut s'améliorer, comment faire, mais faire le travail d'abord. Donc en fait, ça change un peu le paradigme qui est que l'IA est censée te faire gagner du temps, alors que là, en fait, ça en rajoute, parce que c'est le travail après.
Quelques questions au standard. Benoît nous appelle de Tringunc. Je ne sais pas si je connaisse bien. Vous êtes dans le Finistère, Tringunc.
Ouais, Finistère Sud, Tréguin. Ouais,
Tréguin, nous y voilà, Tréguin. Finistère Sud.
J'ai entendu votre conversation et plus on parle d'intelligence artificielle, plus j'ai l'impression qu'on s'éloigne du bon sens de base. Ces machines, les data centers vont se multiplier, il y en aura de plus en plus. Et ces machines pour l'intelligence artificielle fabriquent énormément de chaleur. On devrait, j'espère que le législateur s'en chargera, comme pour l'énergie nucléaire, d'imposer qu'on utilise 100% de l'électricité pour ne pas gaspiller bêtement. Donc, data center, ça veut dire centre-ville et chauffage urbain pour de l'eau chaude ou du chauffage, entre autres.
Cela dit, les data centers recyclent parfois leur chaleur. Hein, ils la donnent aux bâtiments voisins.
C'est très épisodique. Très épisodique. Le reste du temps, c'est gaspillé en pure perte. Comme les magasins vont gaspiller en pure perte la chaleur qui va se dégager des frigos. Comme EDF va produire 30%, récupérer 30% des centrales nucléaires et jeter le reste en pure perte. Si vous aviez un chauffage qui avait un rendement aussi minable, je suis sûr que vous l'auriez changé depuis longtemps.
Merci de ce témoignage. Je ne sais pas à qui attribuer cette question. Peut-être Thomas Cavaillé-Foll, rédacteur en chef de Science et Vie. Notre auditeur nous dit que ça va contre le bon sens, cette intelligence artificielle qui multiplie la chaleur des data centers et donc c'est pas bon pour la couche d'ozone.
En fait, c'est tout le propos des géants de la tech, c'est de dire oui, mais grâce à l'IA, on va finir par résoudre le problème. Il y a un côté un peu, on va continuer à faire des grosses intelligences artificielles parce que bigger is better. Et ensuite, on trouvera la solution pour ce problème-là qu'on aura nous-mêmes créé.
François Scombe.
Oui, mais je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Avec un certain taux d'énergie qui peut paraître énorme, on fait énormément de travail qu'il aurait fallu plusieurs humains pendant des mois à faire. Et ces plusieurs humains pendant des mois vont dépenser des tonnes de CO2. Ils vont dépenser beaucoup d'énergie qui vont faire beaucoup de gaz à effet de serre. C'est ça qu'il faut comparer. C'est-à-dire que comme on a 10 à 100 fois plus de travail très rapidement, finalement, on économise l'énergie pour le même travail. Évidemment, on en fait beaucoup plus de travail. Mais quand même, si on compare comme ça, on est gagnant avec l'IA. Quand même.
François Scombe, l'Académie des sciences a lancé une alerte hier. Une alerte contre certaines technologies censées lutter contre le réchauffement climatique. Il s'agirait de rediriger les rayons du soleil vers l'espace pour réduire artificiellement le réchauffement climatique. Des chercheurs veulent même injecter des particules, je crois, de sulfate dans la stratosphère pour mieux réfléchir la lumière du sens inverse de la Terre. Pourquoi y voyez-vous un risque de chaos incontournable ?
Alors en fait, oui, en effet, vous faites allusion au rapport que nous avons fait hier. Nous sommes allés à Brest, j'y étais presque, pour présenter ce rapport. Et en effet, dans ce rapport, pour essayer de pallier au réchauffement climatique, on a bien dit que la priorité, c'était la baisse des émissions de CO2. La première priorité, c'est que nous diminuions nos émissions de CO2. Et si on n'y arrive pas, qu'on peut peut-être être aidé par la science, on a essayé d'évaluer trois sources de palliatifs comme cela. Alors le rayonnement solaire, c'est-à-dire avec des aérosols qui réfléchiraient le soleil dans la stratosphère.
On dévie le rayon du soleil voilà. Vers l'extérieur.
Voilà, et ça.
On le renvoie dans l'espace.
Par les simulations numériques, on sait que ça va être très hasardeux et très risqué, c'est très controversé, et qu'on préférait ne pas faire de recherche sur ce point. Donc le rayonnement solaire, il vaut mieux éviter. Par contre, on a mis en avant on retire du CO2, que ce soit dans les eaux, avec les océans. Vous savez que 25% à 30% de notre CO2 émis est pris par les océans. Alors évidemment, il y a le problème que l'océan s'acidifie, mais on va justement essayer de réduire cette acidification par l'alcalinisation. Et c'est là qu'on va mettre, par exemple, du fer ou de certains produits chimiques qui pourraient rendre la mer beaucoup moins acide et qui pourraient avaler plus de CO2. On pourrait aussi essayer de favoriser le plancton, qui est une biomasse qui apporte et absorbe le CO2, de même que des macro-algues. Donc tout ça a été une possibilité qui on a proposé de faire plus de recherches là-dessus, parce que évidemment pour essayer d'envoyer des roches pulvérisées dans la mer, toutes les roches ne sont pas tout à fait égales. Il vaudrait mieux faire de la recherche pour savoir quel est l'effet sur la flore et la faune.
Faire plus de recherches, mais on l'a dit malheureusement, avec moins de moyens. Oui, oui. Merci à tous les trois d'être venus répondre aux questions des auditeurs. Le téléphone sonne, c'est terminé. La fête de la science, elle va continuer jusqu'au 13 octobre un peu partout en France. À suivre sur France Inter, l'heure philo, l'émission de Patricia Martin, à propos ce soir de la désobéissance et de son effet miroir, l'obéissance. Patricia va en parler avec ses deux invités, Clotilde Le Guild et Frédéric Gros, tous les deux philosophes. L'heure philo, ce sera après le flash de 20h et après les petits bateaux, très obéissants les petits bateaux, quand ils ont toujours une bonne question à poser.